Radio Grand Est.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me sens le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait Saint-Elpon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Eh bien oui, on se retrouve pour notre nouvelle semaine cinéma avec Pascal Delabrèche et d'Artec aussi, faut le rappeler, La Brèche, trois salles de cinéma en pays foyen. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe.
Ça va bien?
Ça va super bien. Alors, de retour au studio?
Tout à fait.
Ça c'est chouette. Retour voilà. À la base.
Exactement. On prend un petit peu de hauteur dans l'émission et on se retrouve voilà dans les studios de Radio Grand Air à Saint-Avis-Saint-Nazaire. Nous sommes toujours en pays foyen et toujours un plaisir de se retrouver pour parler cinéma avec toi, Pascal.
Exactement. Et bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce numéro 74 d'Entracte.
74, et oui, ça sent bon l'été.
Et oui, exact.
On le disait la semaine dernière avec notre invité Christophe Pérez, qui n'a rien à voir avec l'acteur. Qui joue au cinéma. Eh bien, oui, effectivement, on approche des beaux jours de l'été et nous en avons parlé un petit peu. C'est notamment la fête du cinéma qui se prépare activement dans quelques jours.
La fête du cinéma qui se prépare exactement. Alors on va revenir
début juillet.
Ça sera vraiment début juillet. Oui, c'est vrai que cette année ils ont un petit peu décalé les dates. D'habitude c'était vraiment, on va dire fin juin, vers les 28, 29, 30. Et puis là c'est décalé. Hein, c'est le 2, 3, 4 et 5. Et c'est plus sur 3 jours, mais sur 4 jours. Mais là on reviendra un petit peu de dessus. Mais c'est vrai que tu parlais de cet été. Et oui, on en parlait hors antenne. L'été c'est la trêve.
Des confiseurs.
Voilà.
Ça sera l'occasion d'aller à la plage, mais de se faire un bon petit cinéma dans de belles salles climatisées, en tout cas.
Et
c'est toujours un plaisir de faire un petit tour du côté de la Brèche. On est bien assis et surtout, on a de bons films à voir.
Absolument, oui. Alors, juste pour parler radio aussi, j'ai eu des bons retours de Christophe, qui a passé un super moment avec nous.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'était chouette. On a fait une bonne émission, on a appris plein de choses.
Alors, on rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents, Christophe Pérez est un foyen. Il vient régulièrement au cinéma de la Brèche et comme tu disais, c'est un bouffeur de cinéma.
Oui,
le bouffeur de films.
Oui, mais je t'assure qu'il vient plusieurs fois par semaine. Ils sont pas beaucoup. Enfin, ils sont pas beaucoup aussi. Il y en a quand même plusieurs, mais vraiment lui, c'est vraiment
des fidèles,
habitué des salles. Oui. Même là, de sa Picardie natale, il fréquentait régulièrement les salles de cinéma et il continue. Et voilà pourquoi je voulais faire venir un passionné, parce qu'un passionné a toujours des choses à raconter avec passion. Et ça me plaît bien.
Alors, en plus, il y a une double casquette, puisqu'il a fait figurant aussi. Il nous a parlé un petit peu de son expérience dans des tournages de films, de séries. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu l'envers du décor.
Voilà, il y a ça aussi, mais je voulais surtout aussi qu'il explique aussi à tous ceux qui seraient intéressés d'intégrer un plateau de tournage, donc en tant que figurant évidemment. Et je voulais vraiment qu'il nous parle un petit peu de ça, de la méthode, de la méthodologie, c'est-à-dire comment on s'y prend, comment on arrive à capter les infos, tout ça, et puis comment ça se passe aussi. Donc j'espère que les gens seront intéressés pour pousser la porte d'un directeur de casting et puis de se faire inscrire sur des tournages.
Soyez curieux, poussez les portes, n'hésitez pas.
Exactement, comme on l'avait dit plein de fois, l'Aquitaine est une terre de tournage. Là, il était reparti sur un tournage, Dans le coin, il me semble. Je crois que c'était sur Marmande.
Ouais,
ils
sont
partis sur Marmande.
Exact.
Ouais, ouais. Pour un autre tournage. Donc voilà, c'est, je trouve que c'est une belle expérience pour tous les amoureux du cinéma qui veulent vraiment toucher du doigt, on va dire, la réalisation, et puis comment ça s'articule, on va dire, au quotidien, un plateau de tournage. Hein, c'est quand même. Un gros chantier, c'était
une grosse machinerie. Ouais, ouais, ouais. Les décors, c'est intéressant. La préparation aussi des comédiens, des figurants, c'est toujours intéressant. Ouais.
Et surtout que c'est un petit village qui se déplace à chaque fois. Hein, et c'est du monde partout. Il y a les techniciens, tous ceux qui s'occupent des maquillages, les costumiers. Voilà, il y a tout un tas de professions qui s'interchoquent et puis qui travaillent ensemble de concert, quoi, pour un projet. Quoi. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc c'était chouette.
Oui. D'ailleurs, je me rappelle, Pascal, tu dois t'en rappeler aussi. C'était, on a eu le cas d'un tournage, hein, La Rivière Espérance, hein, qui avait été tourné de nombreuses années sur le secteur du Puy-Foyen.
Il y avait La Rivière Espérance. Mes premières années de projection, ils tournaient un film à Saint-Olé. Alors, je me souviens plus du nom. Après, c'est un film qu'on n'a pas passé à la Brèche. Mais je sais que je suis allé leur chercher des bobines de films à Bordeaux pour eux exprès, quoi, et voilà, et je leur ai demandé si je pouvais un petit peu passer sur le plateau de tournage. Ils m'ont dit oui, on t'appellera. Voilà, je crois que c'était en 98 ou 99, j'attends toujours.
Ouais, mais à l'époque, le téléphone portable n'existait pas trop.
Ouais, bon, enfin. Voilà, non, ils n'étaient pas trop ravis d'accueillir du monde. Ça, voilà,
ouais, c'était un petit peu en autarcie. Enfin,
ouais, c'était vraiment quelque chose d'assez fermé. Hein, donc j'ai pas abusé non plus. Quoi, mais oui, ils ont tourné un film à Saint-Olé.
Alors, Pascal, dans cette 74e. Édition d'Entracte.
Alors, j'ai tellement présenté de films les semaines dernières. J'ai que 3 films cette semaine.
3 bons films.
3 bons films, j'espère.
Absolument.
J'espère. Alors, 3 films différents. Hein. On va parler du dernier film de Bruno Podalydès.
Ah oui, c'est vrai, il revient.
Ouais, waouh. Ça s'appelle.
Ah, c'est facile à retenir.
On va parler aussi du dernier film de Rob Savage, qui est un film d'épouvante, Le Croque-Mitaine, qui est assez demandé ces derniers temps. Hein, je reçois des coups de fil et tout. Voilà, qui est tiré des romans de Stephen King.
D'accord.
Je sais pas si tu as lu déjà, de Stephen King, voilà.
Ouais.
Qui cartonnait dans les années 80, et qui lui a du mal à, il a eu du mal à percer aux États-Unis parce que tout le trouvait qu'il écrivait mal ou qu'il s'était trop un peu alambiqué ou beaucoup trop long dans ses descriptions, tout ça, mais mine de rien, il a réussi à capter l'audience, surtout des ados, hein. Et évidemment, le cinéma s'est emparé, on va dire, de ses scénarios fantastiques, horreur, épouvantes. Donc voilà, Le Croque-Mitaine, donc de Rob Savage. On va parler aussi du dernier film de Éric Duchemin, Temps mort. Et on va parler également de la soirée qui a collé donc à ce film-là.
Effectivement, ouais. Ça sera un rendez-vous qui sera programmé en cette fin de semaine, voilà. Vendredi.
Et dans le cadre donc de la sortie du film Waouh, j'ai choisi une actrice qui est là. On voit pas trop, on la voit plus trop, on va dire. J'imagine qu'elle doit travailler beaucoup au théâtre aussi. On va parler de Sabine Azéma.
Voilà, qu'on verra dans le film Waouh.
Voilà.
Tout simplement. Et bien c'est parti, Pascal. On va commencer par ce retour de Bruno Podalydès qui nous fait le plaisir de nous faire une belle petite réalisation. Alors de quoi s'agit-il?
Alors déjà, évidemment, Bruno Podalydès, il est acteur, réalisateur, scénariste. Le dernier film qu'il a réalisé, c'est Les Deux Alfred avec Sandrine Kiberlin en 2020. Et en 2018, il a réalisé Bécassine. Avec Emeline Bajard et Karine Viard. Alors, au niveau des acteurs de Waouh, on va retrouver donc Karine Viard, Bruno Podalydès, évidemment, devant et derrière la caméra, Sabine Azéma, Eddie Mitchell.
Oui.
Agnès Jaoui, Isabelle Candelier, Patrick Légardès et Manu Payet. Alors, c'est l'histoire de Catherine et Horatio qui sont conseillers immobiliers et qui enchaînent les visites de 2 biens. Donc l'un est une grande maison bourgeoise et l'autre est un petit appartement moderne situé en plein triangle d'or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif, provoquer le coup de cœur. Et ces temps-ci, il y en a besoin.
Parce que c'est vrai, un petit peu de légèreté, ça fait du bien. Ouais.
Non, surtout que le marché de l'immobilier, il est un peu à l'arrêt en ce moment. Hein.
Ouais.
Alors Waouh est un projet qu'avait Bruno Podalydès depuis longtemps sous le titre de « Nos maisons ». Et c'est en faisant visiter il y a des années l'endroit où il vivait qu'il avait été heurté par les réactions de certains clients. un type notamment qui pensait à voix haute aux travaux qu'il allait effectuer en cognant sur les parois. En disant on va abattre ce mur, s'esclaffait-il. C'est cette cloison-là, on la vire, etc. Et il remettait simplement en cause devant moi mon mode de vie. Alors l'immobilier est un sujet bien plus intime que ce que l'on peut imaginer a priori, comme l'explique le réalisateur. Et il nous dit, c'est très révélateur, la visite d'une maison du côté des acheteurs comme de celui des vendeurs. On entre dans l'intimité des gens. Cela peut être insupportable, parfois c'est triste et d'autres fois ça peut être bouleversant. En parlant avec une conseillère immobilière, Bruno Podalides a appris que les gens se laissaient facilement aller à la confidence, au point de livrer des secrets de famille jamais révélés jusque-là. Comme dans le film, cela peut sceller un couple ou au contraire le déstabiliser complètement si les désirs divergent. Acheter une maison, un appartement, en vendre est souvent un chamboulement où le rationnel a rarement sa place. C'est vrai que l'immobilier repose sur quoi ? À part de la nécessité.
Ouais.
C'est un coup de cœur.
Ah oui, c'est souvent un coup de cœur. On s'installe dans un coup de cœur. Quand on peut, il faut avoir aussi les moyens.
Voilà, dans la mesure de ses moyens et surtout en fonction du marché, de ce qu'il propose aussi. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas acheter un château à Chantilly. Il faut être tranquille.
Ou il faut vraiment avoir beaucoup d'argent.
Voilà, beaucoup d'argent.
Se laurier. Voilà.
Donc, Wowood a été écrit en un mois. Et c'est une expérience particulièrement heureuse pour Bruno Podalides. C'est super rapide, hein, à écrire un film en un mois. Et comme il nous dit, j'étais dans l'urgence. Je me suis autorisé la légèreté, une sorte de gratuité sans chercher du sens ou de la morale. J'ai écrit dans l'ordre du film. J'entrais dans les scènes sans savoir comment je les finirais. Les personnages s'invitaient dans mon histoire. Je n'avais pas de programme. C'est une expérience que j'aimerais reproduire. Moi, je dis bravo parce que...
C'est clair.
Tu te rends compte, il s'est fait tout le film dans l'ordre. Dans l'ordre des scènes et tout, donc je trouve ça assez technique. Alors évidemment, il est pas son premier exercice, Bruno Podalides. Oui, il a écrit d'autres films, mais apparemment, oui, il a été touché par la grâce parce qu'en un mois, pour faire un film, pour écrire, hein, c'est vachement rapide. Hein. Faut vraiment que les idées fusent et que tout s'enchaîne.
Il faut être vraiment dessus en permanence et c'est du non-stop, ouais.
Donc, si Waouh a été écrit et réalisé dans l'urgence, c'est parce que Bruno Podalides travaillait sur un film qui a dû être reporté. En attendant que les comédiens soient libres, il s'est vu proposer par son producteur, donc Pascal Cocheteux, de tourner un long métrage plus simple. Et le réalisateur se souvient. Je lui ai proposé plusieurs idées, nous en avons choisi une possible dans nos délais. Aubaine, j'avais à ma disposition une maison que je connaissais bien et qui allait être bientôt mise en vente. Ça a été un incroyable concours de circonstances et une vraie course contre la montre. Le film devait se tourner rapidement où je perdais le principal décor. Et oui, si la maison est vendue,
ah oui,
tu as le tutu, j'ai un peu pointu. Hein. Donc si Waouh permet à Bruno Podalides de retrouver des visages familiers avec lesquels il a déjà travaillé, il y dirige aussi des nouveaux venus comme Eddie Mitchell.
Ah d'accord, ok. Mais enfin, Eddie Mitchell, c'est un, voilà, faut le rappeler, c'est un artiste, hein, mais c'est surtout aussi un comédien. Hein.
On l'a souvent vu dans c'est un vieux de la vieille. Ouais.
Bonheur est dans le pré. Hein.
Entre autres. Celui-ci a accepté le projet très rapidement, à la surprise du réalisateur. Il m'a reçu chez lui et a lu le texte comme Lino Ventura aurait pu le lire avec beaucoup de pudeur et de simplicité. Je le sentais curieux. Il aime être dépaysé, je crois, et très heureux de reformer un couple avec Sabine Azéma. Et oui, après, Le bonheur est dans le pré d'Étienne Chatiliez, et ça remonte à très longtemps. Je crois que c'est un film de 97, 98.
Oui, je pense, ouais.
Et Podalides tenait à ce qu'il joue au piano, au bar du Lutetia, sa chanson écrite en hommage à Gainsbourg. Il a aussitôt appelé son compositeur, Michel Anselm, pour que celui-ci adapte le morceau en instrumental et qu'il nous en donne les droits. Ça m'a beaucoup touché, oui. C'est un sacré geste de la part d'Eddie Mitchell parce que.
Alors,
tu peux pas t'approprier la musique d'autrui comme ça. Quoi.
Voilà. Je pense qu'Eddie Mitchell est un artiste qui a du talent, c'est sûr, hein, c'est indéniable. Mais je pense qu'il doit avoir un sacré caractère.
Aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, en tout cas, il a fait quand même un beau geste. Hein.
Ouais.
Et voilà, ça prouve qu'il a quand même adhéré au projet. Hein. C'est vrai qu'ils tournent tous les deux ensemble. C'est la première fois, hein, qu'ils tournent ensemble. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est pas simple de découvrir un nouveau réalisateur ou de beau du Bruno Podalides d'aller coacher Eddie Mitchell qui lui on n'est pas son premier film évidemment.
Exactement. Ouais.
Waouh. Mm-hmm. Wow. À découvrir à la brèche cette semaine.
Voilà, si vous avez envie de vous faire un achat immobilier, eh bien, vous allez voir où.
Voilà.
Allez, on va découvrir ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Considérez le prix actuel de la maison.
Vous êtes en train de nous dire que vous êtes nuls.
tu es stagiaire, donc tu n'interviens pas pendant les visites.
Capitaine.
Et gentil, mais il est pas un peu nénuche.
Quel est le baba d'un bon agent?
Faire de la thune.
Il émet des hypothèses sur la vie, il croit, je trouve ça sympathique, non?
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Le client, quand il arrive ici, il doit faire waouh.
Waouh.
Sinon, c'est mort. L'avantage, c'est que on est tout près de la gare. Un premier palier avec du chêne, hein, un gland.
Qu'est-ce que c'est beau.
Du chêne. Un superbe gland. Il faut absolument connaître son produit.
Et là, c'est quelle exposition?
Ah bah, réponse à tout. Est-Ouest.
Là, on est Nord.
Hein? Et alors, ici, les toilettes.
Occupé.
On fait une visite. J'espère qu'on vous dérange pas.
Bah là, oui.
On vous laisse. On vous laisse.
Voilà, on va passer un bon moment à visiter quelques maisons. Et c'est vrai que pour vendre une maison, un appartement, oui. Faut avoir du bagou, il faut avoir aussi beaucoup d'imagination.
Il faut susciter l'envie, on va dire.
C'est ça.
Et, voilà. Et puis, ouais.
Faut pas se tromper dans les arguments.
Il faut vraiment accrocher le.
Et ça tient pas à grand chose.
Non, ça tient pas à grand chose. Bah, un coup de cœur, c'est un coup de cœur.
Ouais.
Tu vois, c'est. À un moment, tu arrêtes de chercher. Enfin, moi, je l'ai fait une fois. J'ai juste cette chance-là. Et au moment, tu t'arrêtes de chercher, tu dis non, ouais, là, ça va aller. C'est chouette. Ouais. Je crois que ça va être chouette. Ouais. Et voilà, mais je pense qu'il faut avoir du bagou et tout quand tu sens le client qui décroche, tu sais. C'est là qu'il faut le rattraper. C'est ça l'art de vendre. L'art de vendre, c'est comme de l'hypnotisme, tu vois. C'est hypnotiser les gens. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, ce week-end, j'étais à Rocabadour. Il y avait une petite boutique dans les rues, tu vois, les rues médiévales de Rocabadour. Il y avait un vendeur de gâteaux. Il y avait un vendeur de gâteaux, et donc du coup, j'étais avec mon épouse et plus la compagne d'un ami à moi et tout. Et lequel je l'ai vu faire. Et direct, tu vois, il a accroché les filles, il les a fait rire, tout ça. Et puis il leur a fait goûter des gâteaux, leur raconter des histoires, tout ça. Et puis à la fin, il t'explique. Voilà, si tu prends 100 grammes, c'est ça. Si tu prends 500 grammes, tu as droit à la boîte en fer avec le logo, machin, de Rocamadour, tout ça. Mais à la fin, c'est à la fin, quand elles sont sorties avec leur sachet, avec leur gâteau et leur boîte et tout, je leur dis, bah alors, il est à combien le kilo? C'est ça qui est intéressant.
Ah oui.
Mais tu vois, le kilo, il était à 40 euros. C'est ça, la vente.
Ouais.
Et le mec, si tu veux, je le voyais tellement faire.
Hein.
Ouais, c'était une pièce de théâtre. Je le voyais tellement faire que moi, je suis sorti de la boutique, je suis allé en face, je lui tourne le dos et j'y écoutais. Ouais. J'écoutais sa technique parce que les deux autres, je les voyais, elles étaient hameçonnées, emballées. Voilà, ils le savaient. Quoi. Voilà. Et c'est ça, l'art de la vente. C'est susciter l'envie, c'est susciter l'exclusivité. C'est, voilà, et ça marche super bien.
Ah, c'est un métier. Hein.
Ça marche très très bien.
C'est un métier. Hein. Et c'est vrai qu'on parlait de l'immobilier. Il y a pas mal d'émissions justement en ce moment sur l'immobilier, sur les chaînes de télévision. Cherche appartement. Les gens s'intéressent un petit peu.
Oui, d'accord. Ah, oui, mais ça c'est des émissions pour. C'était pour vendre.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Oui. Voilà. Oui,
on est un petit peu, on est un petit peu dans la thématique, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est intéressant. Waouh,
de Bruno Podalides, à découvrir à la Brèche cette semaine.
Voilà, je pense que vous avez passé un très très bon moment pour ce film. On va enchaîner sur notre rendez-vous qui s'appelle le Croque-Mitaine.
Alors là,
on change totalement de registre.
Plus sombre. Ouais, on va parler du boogeyman. Le boogeyman, c'est pareil. Hein, c'est la traduction du rock mitaine chez les Américains. On va parler du dernier film de Rob Savage, un film américain d'une heure 39, épouvante horreur, évidemment interdit au moins de 12 ans.
Ah oui.
C'est important.
Ouais.
Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Chris Messina, Sophie Thatcher, Viviane Lyra Blair, David Dastmalchian.
Il faut prendre son élan.
Ouais, Marina Ryland et Madison Hu. Alors il y a un truc qui m'a sauté aux yeux d'entrée, c'est que tu dans les acteurs, il y en a deux. Ils ont des noms de premier ministre anglais. Bah regarde, t'as Sophie Thatcher et Viviane Lyra Blair.
C'est leur vrai nom.
Et oui, c'est sur leur vrai nom, c'est le nom des acteurs.
Mais ça, c'est original.
Donc Sadie Harper, une jeune lycéenne, et sa petite sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévasté par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur prodigue ni le soutien ni l'affection qu'elle tente de lui réclamer. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste, à leur domicile, pour demander de l'aide, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s'attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. Là, on plonge vraiment dans l'univers de Stephen King.
Ouais.
Le monde de l'horreur, ouais. De l'épouvante. Tout le monde en a lu du Stephen King. Enfin, je pense que en fait, les années 80, il cartonnait Stephen King. Évidemment, pour ceux qui se donnent la peine d'ouvrir des livres. Alors, moi, je n'étais pas super fan. Hein, je ne lisais pas beaucoup. Quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, je ne lisais pas beaucoup de livres à l'époque. Mais on m'en a mis dans les mains. Donc j'ai lu Cimetière, ce genre de choses quoi. C'était pas mal. Alors, évidemment Stephen King, on l'a accusé à chaque fois. Il n'était pas aimé par les écrivains américains parce qu'on lui disait quoi, voilà, qu'il avait pas de talent, qui s'est allé un petit peu dans son récit, qu'il était disproportionné au niveau de l'étirement. Voilà, bref. Et donc du coup ils aimaient pas du tout son style. Mais patatras, tout se retourne petit à petit. Et effectivement, il est de plus en plus lu donc dans le monde entier. Hein. Et puis le cinéma ça s'empare, on va dire, de ces scénarios.
Ouais.
Et c'est vrai que pour tous ceux qui ont lu Cimetière, moi je parle de ce que je connais. Et tu regardes Pet Sematary. C'est vraiment le récit de Stephen King. Je veux dire, il n'a pas été brodé, il n'y a pas eu de rajout, tout ça. C'est vraiment du Stephen King pur. Et je trouve que c'est une réussite parce que souvent, quand tu lis, alors peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi quand je dis que c'est une réussite, Pet Sematary, mais bien souvent, quand les films sont adaptés de récits, on va dire qu'ils sortent des livres, les gens sont déçus.
Ouais.
Mais c'est normal que tu sois déçu quand tu lis le livre et que tu vois le film après. C'est tout à fait normal parce que. Un film, c'est quelque chose qu'on te propose, c'est quelque chose qu'on te montre, c'est quelque chose qu'on t'explique avec la vision du réalisateur. Mais la littérature, c'est quoi ? C'est du rêve, c'est du fantasme, c'est tous les décors que tu fais toi dans ta tête. Et automatiquement, c'est bien plus riche qu'un simple livre. Tu vois. Et effectivement, ouais, tu peux être déçu parfois parce que tu as imaginé autre chose. Regarde ceux qui ont lu Tolkien. Et qui regardent Le Seigneur des Anneaux, ils disent waouh, mais il n'y a pas tout, quoi. Il manque plein de choses. Voilà. Alors, peut-être que Peter Jackson n'a pas pu tout brosser, j'en sais rien, mais tu vois, les gens qui ont lu Tolkien, les purs et durs, hein, les puristes, hein, voilà, sont plus ou moins déçus par Le Seigneur des Anneaux, notamment les derniers, apparemment les derniers numéros, quoi.
Alors, on en parlait la semaine dernière, justement. En ce moment, on revient un petit peu à ces films qui font peur, hein, ces films à sensation. Il y a un public pour
film
ça.
Film d'épouvante.
Film d'épouvante, ouais. Alors, ouais.
Moi, je le voyais plutôt en Berne, le film d'épouvante, c'est plutôt effondré. Il s'est vraiment effondré.
Oui, il y a eu un passage où on n'en parlait plus.
Il y a un gros passage à vide, mais je pense qu'il est encore là, le passage à vide. Hein. Ouais. Alors, déjà, il y a quelque chose qui a freiné, on va dire, cette industrie. Pour moi, hein, c'est les années 90, 91, 92. Tu as l'apparition du non, c'est plutôt les années 80, plus vers 85 par là, l'apparition des magnétophones, des caméscopes. Mmh. Tu vois, des caméscopes. Et là, c'est vrai que nous, on faisait partie des premiers clients. T'allais chez le je sais pas comment l'appeler, le magasin, le vidéaste, là, et puis tu prenais ton film et tu louais le caméscope.
Exact, ouais.
Tu le louais parce que ça coûtait un bras. Et en plus, le truc, il pesait 20 kilos. C'était vraiment les premiers, quoi. Ouais. Et tu le louais. Donc, du coup, c'est la jeunesse, tu veux, s'est emparée, on va dire, de ce segment-là. Parce que le genre épouvante, c'est quand même plus rigolo avec des potes, tu vois. Et dans une piole où tu te fais peur à plusieurs, tu vois, tu te mets dans le noir. C'était ça, le film d'épouvante. Ouais. Genre Evil Dead, montre-moi des gens qui l'ont découvert au cinéma. Non, Evil Dead, on l'a tous vu sur cassette vidéo. Et en plus, je me rappelle, il y avait un vendeur à cette fois qui me disait « Attention, ouais, c'est interdit. Je restais interdit au moins de 16 ans. »
À la griffe, ouais.
Ouais, ouais, il disait « Attention, c'est interdit au moins de 16 ans. Et je vous préviens, c'est ultra violent et tout. » Mais déjà, c'est horrible. C'est parce que ça, c'est sûr, on parlait de vendeur. Mais ça, c'est vendeur. Parce que toi, t'es là, un petit crétin, et toi, tu te dis « Oh super, ça va être génial, on va mourir de peur et tout. » Oui, Evil Dead, oui, tu meurs de peur, effectivement, quand tu te mets bien dans l'ambiance et tout, quoi. Et voilà, donc c'était chouette, quoi. Alors voilà, et c'est un genre là qui se consommait à la maison. Et je pense qu'il continue à se consommer à la maison. ça se consomme vraiment entre potes. Alors évidemment, nous on a fait des nuits de fantastique, tout ça, mais là c'était différent.
Oui, c'est vrai, vous faisiez des nuits à costumer, il fallait venir costumer.
Voilà. Mais là il y avait une grosse émulation, c'est-à-dire que tout le monde est venu pour ça, et voilà, l'ambiance a été vraiment tournée là-dessus. C'était pas comme si c'était une séance publique, là c'était vraiment toute une nuit qui était consacrée à ça. C'était grandiose, hein. C'était je sais plus combien de films ont passé, mais
oui, ça jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h,
jusqu'au petit matin. Le dernier, il finissait à 5h du mat.
Ah oui, c'est vrai, il y avait petit déjeuner à la sortie.
Petit déj à la sortie et tout.
Pour ceux qui avaient l'estomac bien accroché.
Mais il y en avait, franchement, des gens qui restaient à la fin. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que quand, alors moi je regarde plus trop ces chiffres là au niveau du box office, mais ils font pas de grosses poussées au niveau des entrées, quoi. C'est parce que ce genre là il reste vraiment un genre qui se déguste entre potes.
Oui, et puis surtout qu'aujourd'hui la technologie a évolué, ça soit aussi au niveau sonore, au niveau des effets sonores. Oui. On est vachement pris dans l'ambiance, quoi.
Bien sûr. Alors après, il y a un petit peu.
C'est terrifiant.
Il y a le rebond. Il y a un petit rebond, tu vois, au niveau des films d'épouvante. C'est quand il y avait le projet Blair Witch, tout ça.
Ah oui, alors j'en ai en parlé, ouais.
Mais là, si tu veux, là c'était encore un nouveau genre. C'est caméscope. C'est filmé, t'as intérêt à avoir le pied marin, enfin, tu vois.
C'est vrai.
Mais ça donnait, si tu veux, de la crédibilité au film. Et c'est vrai que ce film-là, le Blair Witch, ça a ouvert la brèche, et plein de gens se sont engouffrés dedans, parce que justement, ce genre-là venait d'être inventé, ça fonctionnait dans les salles, alors évidemment, on en a fait un peu plus, quoi. Mm-hmm. Et je peux en citer d'autres, la série des sauts. SAW, tu vois, pareil, il y en a eu plein. Donc voilà, ça, il y a eu un rebond dans les salles à cette époque-là, quoi. Mais après, moi je les trouve quand même pas trop fréquentés. Alors, je sais pas si ça marche mieux dans certaines grandes villes ou quoi, j'ai pas regardé les chiffres. Mais je trouve que c'est chouette qu'ils reviennent avec du Stephen King, parce que il y a des films qui ont cartonné avec Christine.
Ah oui, c'est
la
vrai,
voiture. Ouais. La voiture pas contente. Tu sais, cette belle voiture rouge. Ouais. Voilà, avec Christine, ça sort d'un récit de Stephen King. Et voilà, mais pour revenir à Cimetière, c'était super, parce que Cimetière, il y avait une dimension qui était folle dans ce film. C'était des gamins qui voulaient faire revivre leurs animaux domestiques, qui se faisaient écraser au bord des routes et tout. Et donc du coup, ça mêlait, on va dire, la mort avec des cimetières indiens où il fallait pas aller parce que la nuit il y avait une espèce de bestiole qui se baladait, je sais plus comment il l'appelait, et en fait il récupérait le lendemain, le chat était à la maison, il était super moche, il était couvert de sang et tout, et les parents comprenaient pas, tu vois, et j'aimais bien ce concept-là, c'est-à-dire braver l'interdit et se retrouver dans des situations super difficiles, des trucs qu'il fallait pas faire, quoi. Et celui-là vraiment il collait vraiment, vraiment au récit de Stephen King. Alors là, on va revenir sur le Croque-Mitaine quand même. Hein.
Ah oui, c'est important.
Donc, ouais. Donc, le Croque-Mitaine, il est adapté d'une nouvelle du maître de l'épouvante, donc Stephen King, paru en 73 dans le magazine américain Cavalier. L'histoire du Croque-Mitaine a été par la suite intégrée au recueil Danse Macabre en 78. Voilà, ça c'est aussi un recueil. Il y avait des recueils de nouvelles chez Stephen King. Il n'y avait pas que des livres sur un seul titre. Donc il regroupe une vingtaine de terrifiantes nouvelles. Et le réalisateur Rob Savage se souvient, ces nouvelles se frayaient toujours en chemin dans mon esprit. Ces histoires les plus effrayantes reposent sur une idée insidieuse qui vous trotte dans la tête au petit matin. Elles puisent dans vos peurs existentielles et reposent sur l'idée qu'il faut se méfier de tout le monde, même de ceux qui semblent vouloir vous aider. Ce genre de menace sous-jacente m'a fait très forte impression. Donc après des films où il jouissait d'une liberté artistique totale comme Host en 2020 ou Dashcam en 2022, Rob Savage semble avoir connu une transition de douceur vers le système de production studio. Comme il nous dit, j'avais peur de devenir moi-même une histoire d'horreur, de compromis, mais chaque image de ce film est le film que je voulais faire, a-t-il déclaré. Donc dans la nouvelle, il n'y a que trois personnages, donc Lester Billings, Will Harper et le Croque-Mitaine, même si elle évoque au passage la femme de Lester et leurs enfants. Dans le film, en revanche, les spectateurs découvrent d'autres membres de la famille Harper et les camarades de Sadie. Donc, une scène du Croque-Mitaine a été jugée effrayante, si effrayante, qu'elle a dû être retravaillée pour la sortie en salle du film. Alors là, il y en a qui vont être super déçus.
Pourquoi ils ont fait plus doux ?
Ah ben oui, c'est ça, il y en a qui vont être super déçus. Attends, je te relis le truc. Une scène du Croque-Mitaine a été jugée si effrayante qu'elle a dû être retravaillée pour la sortie en salle du film.
Ah ouais.
Alors, il est déjà interdit au moins de 12 ans. Non mais t'imagines, ils ont dû s'éclater pour tourner la scène, mais ils auraient dû la garder. C'est dommage. En effet, comme l'a rapporté le site de news allemand Kino, les cris terrifiés des spectateurs lors des projections de test ont entraîné un remaniement du long métrage. Et le réalisateur a expliqué. La première fois que l'on voit la créature, le public a crié si fort, puis a immédiatement commencé à parler avec leurs voisins et à bavarder qu'ils ont complètement raté les lignes suivantes. Nous avons donc dû le recouper et ajouter 45 secondes de rembourrage juste pour qu'il ne manque aucune information vitale.
Ah oui, je comprends.
Oh, le choc. Donc Rob Savage a confié que Stephen King avait apprécié le film. Une séance spéciale a en effet été organisée pour l'écrivain dans son propre cinéma qu'il a quitté satisfait, comme l'a expliqué Rob Savage. Et comme il nous dit, nous avons loué son cinéma et projeté le film pour lui dans le mail. Je n'y suis pas allé parce que j'étais terrifié à l'idée qu'il fasse un truc à la Shining et qu'il le déteste absolument. Mais apparemment, il a sursauté de nombreuses reprises, puis a envoyé ce charmant, charmant message à tous ceux qui ont travaillé sur le film. Et le lendemain matin, je reçois un email écrit de Stephen King et il dit « Robert, je pense toujours à ton film le lendemain matin. » Donc c'est gagné ça.
Ah oui ?
C'est gagné. Ouais. Donc au moment de choisir la région où serait tourné le film, la Nouvelle-Orléans a fait l'unanimité chez les producteurs et le réalisateur. Outre les crédits d'impôt, l'histoire et la culture locale propres à la région se doublaient d'un cadre spatial adéquat. Et comme il nous dit, sur le plan visuel, ça nous a permis de montrer une petite communauté apparemment idéale pour fonder une famille et élever ses enfants, mais qui finit par devenir terrifiante, confie la productrice Emily Morris. Donc la maison Harper est à l'origine d'inspiration victorienne, mais le chef décorateur, donc Jeremy Woodward, a choisi d'innover et de proposer une autre architecture qui se prêterait mieux aux différentes facettes du scénario. Il raconte... Les maisons victoriennes, et c'est vrai qu'à chaque fois, ouais, on se retrouve sur à chaque fois des vieilles maisons, évidemment, c'est patiné. Tu, ouais. tu vois, les maisons victoriennes, c'est 1800.
Bah, c'est là où tu as des entités. Hein.
Ouais, ouais.
Plus que dans les entités, plus que dans les maisons neuves.
Et comme il nous dit, les maisons victoriennes sont vraiment associées aux histoires de fantômes. Je ne voulais pas que le nôtre dévoile toute l'intrigue aux spectateurs. Il a donc adopté pour une maison du type craftsman, un choix inattendu qui reflète davantage ce qu'il appelle l'énergie paternelle. Will Harper est plein de bonnes intentions, mais son côté cérébral l'a coupé de ses émotions. Et comme il nous dit, je voulais aussi une maison de type apollonien. Les craftsmen ont un style rationnel, charpenté et beau qui reflète cette énergie. Donc... pour créer l'aspect initial du dégât des eaux sur le plafond, alors j'imagine qu'ils ont dû, mettre la maison sur le dessus-dessous. Donc Jeremy Woodward et son équipe ont mélangé de la peinture, de la colle en aérosol, de la laque et d'autres matériaux dont l'interaction produit des textures intéressantes. Pour le mycélium, donc c'est les champignons, hein, ils ont utilisé une concoction de fibres textiles et de cordes traitées avec une matière plastique noire gluante ou de la peinture haute température. Je te dis pas l'ambiance. Ça va être blindé de toiles d'araignée et tout. Et là, il nous dit, on a fait cuire de tout dans ce qui ressemblait au chaudron d'une sorcière pour produire une ouate de coton gris foncé déchiré qui a cet aspect étrange et éthéré, comme de la fumée accrochée au mur, explique-t-il.
Quelle imagination.
Donc, non, mais j'imagine que la déco, vraiment, le décor doit être vraiment, vraiment sympatoche, quoi. Donc voilà un petit peu pour vous donner envie d'aller voir ce film-là pour tous les aventures, pour tous les amateurs de Stephen King, de son univers, de l'univers de l'épouvante, et voilà, et qui veulent renouer un petit peu avec le style, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup de films d'épouvante, et c'est vrai que les derniers que j'ai vus, je les ai pas vus, mais qu'on a passé à la brèche, la fréquentation n'est pas forcément là, quoi, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que finalement, moi, je pose la question, ouais. C'est aux gamins, des fois.
Oui.
Je pose la question, je dis, bon, vous faites quoi? Pourquoi vous venez pas voir ça, voir ci, voir là? Voilà, ben, ils faisaient comme nous. Tu vois, ils s'enfermaient dans une piole. Nous, c'était les cassettes, des VHS. Ben, eux, c'est Netflix ou tout ce que tu veux, et les plateformes, et voilà, ils se font peur ensemble.
Eh bien, si vous avez envie de vous faire peur, allez faire un tour à la brèche, et on va écouter la bande-annonce sur Radio Grand Air.
Quand on est face à des faits angoissants qu'on ne comprend pas, notre cerveau cherche à combler les vides. Souvent, le plus efficace, c'est de les affronter. La lumière que tu as là va au début rester comme elle est, elle va rester fixe. Ensuite, graduellement, elle va clignoter pour finir par plonger complètement la pièce dans le noir. Comme ça, tu te rendras compte qu'il n'y a rien à craindre. On y va ? Ça fait pas peur, n'est-ce pas ? Il n'y a que toi, ta sœur et moi. Est-ce que ça va? C'est pas réel.
déjà dit, ça existe pas, les monstres. Grandis un peu, Sawyer. J'ai pas envie de rigoler, là. J'ai besoin d'être seule.
Maintenant, vous avez ces espèces de troubles. Qu'est-ce que c'est censé représenter? C'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention.
M'écouter, papa!
Je t'écoute. Explique-toi. Chérie, laisse-moi faire.
Voilà, le croque-mitaine, on est emporté par le diable, et on va faire appel à Russell Crowe.
Ouais, oui, oui, j'ai pensé à lui, mais tu vois, c'était pas un film d'épouvante, l'exorcisme du Vatican.
Ah oui.
C'était épouvantable.
D'accord, mais c'est pas classé.
Mais non, parce que c'est un biopic en fait.
Et oui, c'est vrai.
C'est pour ça quoi.
Exact.
Mais là, il y a tout, il y a l'ambiance, tout, il y a la musique.
La musique et tout, ça fait flipper. On a la chair de poule. C'est garanti, même sur la bande-annonce. Je vous dis pas. Donc, à voir cette semaine, le croque-mitaine. Ça porte bien son nom.
The Boogeyman, donc c'est le titre littéraire, c'est The Boogeyman.
Voilà. Interdit au moins de 12 ans, on le rappelle.
Interdit au moins de 12 ans, oui, oui, bien sûr.
Si vous avez 12 ans et demi, on peut.
On peut. Oui. Oui, il rentre dans la norme, donc ça va.
1h38 pour frissonner, à la brèche, cette semaine. Allez faire un tour si vous aimez ces films d'épouvante et d'horreur. On va revenir sur un temps fort, tout simplement, et c'est temps mort. Ça se passe à la brèche.
Ça se passe à la brèche. Ça sera une soirée donc débat,
ouais,
autour d'un court métrage donc qui a été réalisé par Monsieur Diabaté Daouda. Un court métrage donc de Ryan Bettar, Imad Eiresh, Oussama Kouria, Bader Nouamani et Sharif Razzaoui, accompagné donc par Daouda donc Diakaté. Et la MD Prod Academy, donc ils ont réalisé donc un petit court métrage, hein, dont voici le synopsis. Donc Souleymane est un jeune lycéen de 17 ans et ses potes sont tous plus âgés que lui et gagnent leur vie en faisant des paris sportifs. Ils organisent un week-end à Amsterdam et Souleymane veut les suivre, mais il n'a pas d'argent. Et donc il va essayer de faire comme eux et parier sur son premier match. Donc voilà un petit peu le sujet donc de ce court-métrage qui s'appelle Mehouda, un court-métrage donc qui dure 10 minutes.
Ouais.
Et qu'on projettera en avant juste avant le film. Ça sera une soirée donc ça sera la soirée du vendredi donc 23 juin à 20h15. Donc il y aura la projection du court-métrage. Donc il sera écrit et réalisé par un groupe de jeunes donc habitants de Sainte-Foy la Grande dans le cadre de ND Prod Academy et porté par l'association Nos Rêves Productions en partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. Hein. Et donc à la fin, on aura de la projection, il y aura des échanges avec les protagonistes du film. Et après, évidemment, on aura la projection du long métrage Temps mort, sur lequel nous allons. Que je vais vous faire découvrir à l'instant. Donc, Temps mort, évidemment, c'est un film franco-belge d'1h58. C'est un drame de Éric Duchemin. Au niveau des acteurs, on va retrouver Karim Leclou, Isaka Sovadogo, Jarod Cousins, Johan Leysen, Blanka Ryslinkova et Asila Alabi. Donc pour la première fois depuis longtemps, trois détenus se voient accorder une permission d'un week-end de 48 heures. Pour atterrir, 48 heures pour renouer avec leurs proches et 48 heures pour tenter de rattraper le temps perdu.
C'est court, 48 heures.
C'est 48 heures, c'est très court. Donc c'est un challenge.
Ouais.
Donc
ça me rappelle un petit peu l'armée. L'armée 48, on avait... Ouais. On te portait en permission.
Ah oui, il fallait pas merder là. Ah oui.
T'avais une 48, t'avais une 72, c'était bien une 72.
Ah ouais, ouais.
C'était un petit peu plus long pour.
Ouais. 48, faut courir.
Pour décompresser, voir ta famille. Mais 48 heures, ça faisait un peu court. Hein, si on t'était muté justement à faire ton service national à l'époque.
Donc. Ève Duchemin donc, a quitté Paris pour la Belgique à 18 ans, donc, qui est la réalisatrice hein, donc, de Temps mort. Hein. Sur place, elle a assisté à plusieurs luttes sociales fortes qui l'ont beaucoup marquée. Elle a ainsi eu envie de filmer ces gens qui se battent pour leurs conditions de travail. Et la réalisatrice explique « Je faisais sans le vouloir mon éducation sociale et politique, caméra à la main. J'ai ensuite étudié étudié à l'INSAS, une école de cinéma bruxelloise, en section images. Puis j'ai réalisé des documentaires pendant une quinzaine d'années. J'aime surtout filmer les gens, leurs contradictions et ainsi dessiner leurs portraits. Et en leur parlant derrière la caméra et en les filmant d'une manière très personnelle, intuitive et charnelle. Ce sont les personnes à la marge qui me bouleversent le plus. Ce qu'on regarde trop vite, ou pas du tout. Le documentaire permet de prendre le temps de regarder des êtres, de récolter leur ambivalence et d'offrir aux spectateurs la possibilité de s'identifier à eux, de partager un moment de leur vie. Je suis toujours convaincu que la beauté que je dessèche les gens que je filme émergera à l'image. J'ai surtout à cœur de rendre compte de la complexité des êtres à une époque qui a tendance à les catégoriser et nous faire oublier que nous sommes tous multiples. Alors comment est né ce projet ? Donc Ève Duchemin a rencontré Marie Lafont à une fête par hasard. Lorsque la cinéaste a appris qu'elle dirige une immense prison pour hommes, l'envie de s'y rendre pour y filmer les détenus l'a saisie et Marie a pu lui ouvrir les portes de ce milieu carcéral. Et comme elle nous dit, j'ai pu, à ses côtés, y faire deux films. Un du côté de la direction, l'autre du côté des détenus. J'ai suivi les pas de cette directrice de prison pour hommes, mais j'ai senti que mon dispositif commençait à se cogner à ses propres limites. C'était un véritable combat de montrer les fêlures de cette femme soumise aux injonctions contradictoires de l'administration pénitentiaire. Et nombre de surveillants précaires travaillés à ses côtés ont refusé d'être filmés, se rappelle la cinéaste. Elle poursuit. J'ai ressenti pour la première fois une grande frustration d'être en permanence soumise au réel et à ses exigences, alors qu'il était nécessaire pour moi de montrer que tous, travailleurs comme détenus, payent un prix fort en milieu carcéral, qui est un monde d'une rare violence. Oui, ça...
C'est clair.
C'est clair, oui. Ça, c'est même facile à deviner, quoi. Un jour, un jeune détenu que Ève Duchemin connaissait bien n'est pas rentré de sa permission. La réalisatrice est alors mise à fantasmer sur ce qui pouvait se passer dans la tête d'un jeune homme de 20 ans qui vient de passer 4 ans en prison et à qui l'on permet de passer 2 jours en liberté alors qu'il n'a pas achevé sa peine. Et la cinéaste développe. Cette expérience doit être aussi intense que cruelle. Il m'était impossible d'imaginer filmer un détenu dans ces 2 seuls jours de liberté conquise. Ma caméra aurait-elle été légitime au moment où il aurait embrassé sa mère, point d'interrogation. Et qu'aurait-elle pu saisir de sa sexualité bridée? Cette situation est trop intime et physique pour que le documentaire y trouve sa place éthiquement. Mais elle est intéressante comme comment ces corps contrits qui se retrouvent jetés dans la société pour 48 heures vont-ils se comporter? C'est vrai que nous, on a du mal à s'imaginer, mais... enfermé dans une petite boîte et quand on lâche, oui effectivement, prendre la poudre d'escampette, je crois que c'est ce qui,
oui.
Je crois que c'est la question qui te vient à l'esprit quand même.
C'est sûr.
Donc la cinéaste donc Ève Duchemin a passé 5 ans à écrire Temps mort et à l'imaginer et à imaginer donc ces 3 personnages masculins d'âge et de parcours différents qui ne sont ni de grands bandits, ni des terroristes, ni des monstres. Et comme elle nous dit, ce ne sont que des hommes coupables certes, mais qui comme nous ont une vie, une famille, un passé. Je me suis dit, lâche-les et regarde où ils vont. Il faut savoir que rentrer en prison représente tout un processus quand on trouve une porte tous les 20 mètres dont l'ouverture dépend du bon vouloir d'un surveillant. C'est un endroit très oppressant. Et il était exaltant pour moi d'imaginer cette fois des personnages qui en sortent. Cela me réjouissait de les filmer en train d'ouvrir cette ultime porte et de se retrouver à l'air libre. Donc Ève Duchemin a opté pour un code de couleur discret par personnage pour aider les spectateurs à trouver ses repères lorsque le film passe d'une histoire à une autre, ce qui a logiquement influé sur le choix des décors et des costumes. La réalisatrice raconte à ce sujet. Chez les Bonnard, nous étions dans les rouges et les marrons. Chez Amoussin, dans les bleus qui se dirigent vers l'ocre. Et chez Colin, tout est plus flashy. Cela a donné une cohérence à l'image et a permis d'apporter de la beauté à l'esthétique du film. Mais issu du tournage documentaire, je ne suis pas une obsédée de la technique parfaite. Au contraire, j'aime sentir la fragilité, le débordement, l'image généreuse qui cherche à voir, à comprendre, laisser vivre les perturbations lumineuses qui participent au feu d'artifice permanent à l'écran et qui fait écho aux accidents de la vie.
Votre demande de permission de sortie a été acceptée par le juge. On vous encourage aussi fortement à reprendre contact avec votre famille.
Et sinon, ça va là-bas? Tu ne fais pas trop marcher sur les pieds, j'espère.
Parce qu'après tout ce temps, ça va être compliqué pour vous dehors, vous comprenez?
Je sais parfaitement quel est mon devoir. Mademoiselle, je m'y prépare tous les jours.
Je voudrais moi juste trinquer au bonheur d'être en famille, voilà.
Rassieds-toi, Anthony.
Ça paraît dur au début, hein, les gens et tout. Tu verras, on s'y fait assez vite. grave sur reste sur la green car, photo tout va péter, le jeune est en vitage, je sais qu'on a traîné, c'est M de Kishta, j'ai dit que tout va peiner, on veut le mini-mi,
Allez, tu peux t'en aller maintenant, j'ai d'autres enfants à m'occuper, moi.
Mais moi aussi, je suis ton fils.
Julien, tu dois aller voir tes enfants. Ça fait 20 ans.
Tu viens pas souvent me voir, hein. Une fois de temps en temps, ça me ferait plaisir.
J'ai pas le temps.
Tu sais que pour tes potes, c'est tranquille, là. Genre, ils vont très très bien.
Vous savez qu'il suffit juste que j'ouvre la bouche pour que tout votre petit monde s'écroule.
T'en as rien à foutre de moi, en vérité, hein. T'en as rien à foutre.
Tout le monde, toi, tu fais pitié à tout le monde.
Écoutez, je pense que tout homme a droit à une seconde chance.
Temps mort à l'instant, la bande annonce sur Radio Grand Air et à voir cette semaine à la Brèche, un film dramatique d'Ève Duchemin. Et donc tu le disais, rencontre, échange, vendredi à partir de 20h15 à la Brèche.
Vendredi 23 juin à 20h15 à la Brèche. Donc à découvrir le film plus le documentaire donc Mehouda, hein,
absolument
de NR Prod Academy. Et donc présenté donc par l'encadrant qui Daouda dans Diakaté.
C'est noté, Pascal. On va revenir à la comédienne que
ouais,
tu as choisie cette semaine.
On va parler de choses plus légères quand même. On va finir sur une note quand même vachement plus fleurie.
Sabine Azéma.
Ouais, on va parler du charme de Sabine Azéma, évidemment. C'est une grande actrice.
Ouais.
Une grande actrice. Hein, moi, je l'ai adorée dans plein de films. Et on va parler de sa filmographie.
Très intéressant.
Alors évidemment, elle a fait énormément de films, j'ai carrément oublié de noter le nombre, je suis vraiment navré. Mais au niveau filmographie, donc on va la voir la toute première fois, c'est en 76, dans un film de Georges Lautner qui s'intitule On aura tout vu, avec Pierre Richard et Miu Miu. Toujours en 76, on la verra dans un film de Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne. Pour ceux qui s'en souviennent, donc avec Geneviève Munich et Louis Ducreux. En 83, on la verra dans La vie est un roman d'Alain René. Alors elle va beaucoup tourner pour Alain René, Étienne Châtillaz et tout.
C'est un petit peu la chouchou, quoi.
Ouais, je crois, ouais. C'est leur actrice fétiche. Ah. Donc La vie est un roman donc, d'Alain René avec Vittorio Gassman et Géraldine Chaplin. En 88, on va la voir dans un autre film de Tavernier, pareil aussi, qu'il a fait beaucoup tourner, dans un grand film avec Philippe Noiret et Maurice Barrier. La vie et rien d'autre. Je sais pas si tu t'en souviens.
Ça me parle le titre, mais je ne pense pas l'avoir
vu. C'est vraiment une drôle d'histoire. En plus, c'est bien parce que c'est un sujet qui est assez mal abordé. Mais c'est l'histoire d'une mère qui cherche son fils sur le front de 1918. Quoi.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et, ouais. Et elle est persuadée que de retrouver sa trace. Et Philippe Noiret il joue le rôle d'un général qui est chargé d'aller exhumer ces corps-là. Et puis. Et elle est persuadée que en suivant Philippe Noiret, elle va retrouver enfin, le corps de son fils, quoi. Et il n'y a pas tout ça. On est dans une ambiance, on va dire post-guerre. Tout est détruit. C'est la désillusion. Oui, c'est la victoire, mais à quel prix tout est dévasté, tout est détruit, tout est à recommencer. Et l'ambiance, il n'y a pas des plus folichonnes. Mais il a bien retranscrit comme ça Bertrand Tavernier, ce monde d'après-guerre. En 93, quelque chose quand même un peu plus léger. On va l'avoir dans Smoking No Smoking. Toujours dans l'air aîné avec Pierre Arditi, Peter Hudson.
Ouais.
Oh, il y a tout un tas, il y a toute une pléiade. C'était une comédie musicale, Smoking No Smoking. Il a bien marché ce film. Hein.
Exact.
Il a très très bien marché. En 97, je confonds, mais on connaît la chanson, pardon.
Oui, c'était.
Toujours
oui,
dans l'air aîné.
Ouais.
Non, je confonds avec. On connaît la chanson dans l'air aîné, donc avec André Dussolier, Pierre Arditi. Lambert Wilson, j'en oublie plein. Donc là, oui, effectivement, il y a des bons passages. Des passages chantés que j'ai beaucoup aimé, même si j'aime pas trop. Je suis pas trop fan de comédie musicale, mais celui-là, il m'a quand même assez étonné. Par son travail, son montage, tout ça, c'était vraiment, vraiment sympathique. En 99, on va l'avoir La Croisée dans la bûche de Daniel Thompson, avec Emmanuel Béart et Charlotte Gainsbourg. Ça se passe
en vacances
pour l'hiver. En 2001, on l'a vu dans Tanguy.
Ouais.
Étienne Châtillaz avec Éric Berger, André Dussolier, Tanguy, qui pareil aussi, qui a bien marché ce film-là. Le second un peu moins, beaucoup moins. Mais évidemment, tu l'as plus l'effet de surprise. En 2003, Le mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès avec Pierre Arditi, Claude Rich, pareil, un film qui a très très bien marché aussi. En 2008, un film un peu plus léger, c'est Le Voyage aux Pyrénées de Jean-Marie et Arnaud Larrieux avec Jean-Pierre Darroussin et Hargy Jover. En 2011, un film qui vraiment, je me suis dit, bon, alors il s'embarque dedans, qu'est-ce que ça va donner ? Donc, c'est un film de Daniel Auteuil, La fille du puisatier.
Ah oui.
Avec Nicolas Duvauchel, Astrid Bergès, mais il y a tout un tas de d'acteurs dedans. Bon, mais moi je préfère Rému et Fernandel.
Ah, c'est sûr. Pour les puristes, ouais.
Voilà, il est indétrônable ce film-là. C'est pour ça que quand j'ai vu que Daniel Auteuil s'attaquait au film de Pagnol, c'est dur de s'attaquer à des monstres du cinéma comme ça.
Ouais.
C'est dur. Et en plus, nous, on a toujours, on va dire, en mémoire ces films-là qui sont patinés. Ils sont patinés, le son n'est pas parfait, la prise de vue, des fois, elle est un peu défaillante. Tu as des défauts sur la péloche et tout. Ce sont les films de Pagnol, c'est tout un univers. Hein. Et le refaire, si tu veux, en numérique, avec des images bien léchées, tout ça. Et puis après, c'est vrai que c'est moi, j'ai un peu de mal aussi avec des Parisiens qui se donnent l'accent marseillais.
Oui, ça sent.
Moi, je préfère le contraire, tu vois.
Ouais.
Moi, je préférais, tu vois, par exemple, t'as Fernandel qui a tourné Ali Baba et les 40 voleurs. Mais je préfère de voir Ali Baba avec ses danseuses et tout, qui parlent, tu vois, qui sont habillées à l'oriental et qui ont l'accent marseillais. Ça me plaît bien, tu vois. Le contraire, enfin, je sais pas, moi, ça m'a un peu gêné. Et je pense pas que ces films-là ont super bien marché. Hein, parce que déjà, en plus, je crois que. Qui se souvient de La fille du puisatier c'est un peu particulier quoi. Et pour finir évidemment en 2018 Tanguy, donc le retour toujours d'Étienne Châtillaise avec André Dussolier évidemment Sabine Azéma, vous pensez bien, mais pareil ce film n'a pas très bien marché. C'est le piège des suites.
Oui, c'est ça.
Tu ne bénéficies plus de l'effet de surprise, donc il va falloir trouver des choses vraiment rigolotes à raconter. Il faut surprendre les gens. Et voilà, et c'est très compliqué, donc ça marche ou ça marche pas. Et dans ce cas-là, ça n'a pas marché, hélas.
Alors, Sabine Azéma. Elle nous vient de Paris.
D'où vient du tout ? Ah, tu savais où elle est ? Ah, ouais, d'accord. Ah, tu savais ?
Ah, oui, elle est parisienne, ouais. Ah. Oui, je savais.
Elle n'a pas l'accent marseillais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous, la présence, ça me fait penser à une espèce d'Arletty, tu sais.
Ah oui.
Toute fine, toute grande, là, tout sous, ouais. Une espèce de gouaille tout, qui est la sienne, tout, évidemment. Mais voilà, elle me fait penser à cette grande actrice. Et oui, Sabine Azéma, elle est actrice, réalisatrice. Elle est née le 20 septembre 1949 à Paris.
Faites les calculs, là.
Ce qui me fait une jeune fille de 73 ans.
Absolument.
Et oui. Fille d'un avocat. Sabine Azéma passe son enfance et son adolescence à monter des spectacles avec l'aide de ses deux sœurs et de ses amis. Donc en quoi elle était précoce, hein. Le bac en poche, elle s'inscrit au cours Périmonie avant d'intégrer le conservatoire avec pour professeur Antoine Vitesse, tout en donnant des leçons de comédie dans un collège. Distribuée au théâtre dans des rôles de jeune première espiègle, elle interprète la fille de De Funès dans La valse des toréadors d'Anouilh en 1974. Deux ans plus tard, c'est encore sur un mode comique qu'elle fait ses débuts au cinéma dans On aura tout vu de Lautner. Mais si on la retrouve bientôt au générique du drame de la Dentelière. En 83, La vie est un roman dans lequel elle campe une institutrice au tempérament passionné, marque la rencontre de Sabine Azéma avec celui dont elle deviendra la muse, Alain René. Dieu sait, ça a fait tourner une paire de fois. Au fil d'une collaboration qui s'étend sur près de trois décennies, le cinéaste permettra à la comédienne de révéler les multiples facettes de son talent. Héroïne tragique dans Le sombre L'amour à mort en 84, puis dans Mélo en 86, adaptation d'une pièce de Bernstein qui lui vaut un César de la meilleure actrice en 87. Elle incarne la vive et énergique Odile dans On connaît la chanson en 97. Passant du rire aux larmes au gré des six personnages du diptyque Smoking No Smoking en 93, tantôt vertueuse, tantôt vicieuse dans Cœur en 2006. Elle donne de la voix dans le film opérette Pas sur la bouche en 2003. Cette belle complicité avec René n'empêche toutefois pas à Sabine Azéma de se frotter très tôt à d'autres univers. Dès 85, elle décroche un premier César pour sa composition de fille aimante dans Un dimanche à la campagne de Tavernier, qui la confronte ensuite au fantôme de la Grande Guerre dans La vie et rien d'autre, dont on parlait tout à l'heure. L'actrice retrouvera plus tard le monde des poilus à l'occasion de La Chambre des officiers en 2001. Et oui, exact.
La Chambre des officiers.
Et oui, oui. Donnant une fois de plus la réplique à André Dussolier et montrant par la même occasion à quel point ses choix de carrière vont souvent de pair avec des retrouvailles. Vue chez Doillon, Mocky et Blié, Sabine Azéma gagne ses galons d'actrice populaire grâce à l'insolent Châtillies qui lui confie le rôle de la bourgeoise coincée du Bonheur et dans le Pré en 95. Oui, je crois que tout le monde se souvient de la scène avec Eddie Mitchell dans la voiture. C'est une scène d'anthologie. Oui,
c'est une Renault 21, non?
Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, je vais dire une chose, c'est une scène que personne n'aura le courage de refaire, tu vois, de ce genre de scène. Ouais. Ça, c'est, là, tu te fais allumer, mais grave, tu vois. Par tout un tas de petits groupes énervés. Il n'empêche que ça reste une grande scène de cinéma parce que ouais, je me souviens du film où tout le monde se bidonnait dans la salle.
Ouais.
Tout le monde s'est bidonné, les gens se sont précipités, surtout les gens du sud-ouest, évidemment, ça se passe, genre, je ne sais plus, dans le Gers, un truc comme ça. Et là, il a vraiment fait fort. Etienne Châtillies, quand même, il est allé vraiment très très loin et c'est ça, il a vraiment surpris son public parce que quand il y va, tu dis le Bonheur dans le Pré, où tu dis ouais, Michel Serrault, dit Michel, c'est deux potes et tout. Mais non, pas deux potes en fait, c'est l'amour de deux hommes en fait, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire, c'est des super potes.
Ouais.
Et non, c'est un grand grand film et je serais vraiment curieux de le revoir juste pour voir
s'il a bien vieilli.
Comment il a vieilli, exactement. Ouais. Dans le Bonheur de Pré, le Bonheur est dans le Pré en 95, puis celui de la mère à bout de nerfs dans Tanguy en 2001. Actrice au jeu décidément éclectique, Sabine Azéma inspire aussi les jeunes réalisateurs, jouant les Vamps aux côtés de Rouletabille dans Le Mystère de la Chambre Jaune de Podalides et sa suite en 2005, avant d'être choisie par une autre cinéaste de la nouvelle génération, Noémie Lvovsky, dans L'amant de Fred Astaire. Elle cède ensuite à toutes les tentations dans L'hédoniste, Peindre ou faire l'amour des frères Larieux, qu'elle retrouve pour un déjanté voyage aux Pyrénées en compagnie de Jean-Pierre Darroussin. Les années suivantes sont davantage encore que par le passé, celles des retrouvailles avec son époux Alain René pour Les Herbes Folles en 2009 et Vous n'avez encore rien vu en 2012, qui marque leur 9e collaboration. Jamais 203, elle remet également ça en 2009 avec les frères Larieux dans Les Derniers Jours du Monde. À l'affiche de Donnant Donnant d'Isabelle Mergault, pour lequel elle sort un peu de sa famille de cinéma, l'actrice y donne tout de même la réplique à Daniel Auteuil, qu'elle retrouve par la suite comme metteur en scène dans La fille du Puisatier, 2011. Après avoir tourné dans Aimer, boire et chanter en 2014, le dernier film de René avant sa mort, la comédienne est choisie pour présider le jury de la Caméra d'Or lors du Festival de Cannes de 2015. Et oui, alors là, ils ont choisi vraiment, vraiment un bon personnage pour ça. Ainsi, la vie, pour l'instant, de Sabine Azéma, elle n'est pas terminée. Moi, je lui vois une grosse carrière devant. Elle a déjà une énorme derrière. Et c'est quelqu'un qui est super et qui est capable de s'adapter à tout un tas de scénarios, qui surprend, qui est un peu aérienne, un petit peu comme ça. C'est des personnages un peu insaisissables, hein, Sabine Azéma, quand tu les vois dans certains rôles. T'as du mal, on va dire, à cerner un petit peu le personnage. Et elle, je pense qu'elle joue là-dessus. Et je trouve ça super, quoi. C'est pour ça que ça fait une grande actrice.
Voilà, et qu'on vous invite à voir dans ce nouveau film, ce retour, waouh, vous allez passer un excellent moment, j'en suis sûr, en tout cas, à la brèche. Merci Pascal pour cette
Merci
petite
Christophe.
Visite des lieux. On a
chouette.
Parcouru quelques rendez-vous sympas cette semaine à la brèche. Et puis faites-vous plaisir, tout simplement.
Absolument, et je vous rappelle aussi comme les dates de la fête du ciné, là par contre,
très important.
Ouais, c'est 5€ la séance, ça sera...
Lâchez-vous.
Ah, ouais. Le dimanche 2, le lundi 3, le mardi 4, le mercredi 5 juillet, voilà, pour commencer l'été, je trouve que c'est chouette, et de se faire un plein de ciné comme ça, hein, parce qu'on va vous proposer une vingtaine de films, hein, donc faut pas hésiter, venez dévorer le cinéma, quoi, tout simplement.
Voilà, et ce qui aura effectivement d'intéressant, c'est qu'il y aura le nouveau Indiana Jones qui sera dans les cartons,
ah,
et avec
approche.
Le nouveau Mission Impossible aussi.
Ça approche, effectivement. Sortie nationale le 28 juin.
Voilà, c'est noté, on en reparlera la semaine prochaine.
Voilà, on va faire un gros papier dessus. Hein.
Absolument. Et Pascal, je te laisse le mot de la fin, hein, bien sûr.
Le mot de la fin, écoutez, prenez soin des vôtres, regardez moins la télé, écoutez Radio Grand Air et venez au cinéma, venez à la fête du cinéma, venez aux avant-premières, venez découvrir Indiana Jones. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine, il y a plein de choses à voir. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci Pascal.
Salut Christophe, bonne semaine.
À bientôt.